après une première étape qui était intitulée la dernière fois « La volonté de commencer », nous allons, dans une deuxième étape maintenant, intituler le goutte à goutte, pas la goutte, le goutte à goutte et la trombe. Nous allons réfléchir sur la question de la nature de la prière contemplative. Vous voyez, quand vous regardez le plan de cette petite méditation, premièrement en route pour vivre un développement vers la complétude divine. Deuxièmement, la purification progressive pour remédier à l'inégalité. Troisièmement, l'oraison de recueillement, commencement de la contemplation infuse. Quatrièmement, la contemplation infuse insufflée, un cheminement pour tous. Et puis, cinquièmement, quand Dieu donne un cours intensif d'illumination divine. Pourquoi à certains et pas à d'autres? Sixièmement, mieux comprendre la prière contemplative, analogie entre la spiritualité et l'électricité. Septièmement, les deux caractéristiques de la véritable prière contemplative. Et huitièmement, nous rendre disponibles par de petits actes afin que se déploie la puissance de Dieu. Voilà, ces trois pages résument 13 pages du chapitre 2 du livre de Peggy Wilkinson, comme nous le disions précédemment. Dans la contemplation, nous descendons dans notre espace intérieur pour observer les réalités célestes. Nous entrons en contact avec l'absolu dans un processus de maturation. Vous avez pu remarquer en lisant les titres simplement déjà qu'il y a des mots un peu complexes qui apparaissent, mais ces mots sont importants. Le mot maturation, par exemple, la prière contemplative opère une maturation en nous. Le mot espace intérieur, descendre, nous descendons dans notre espace intérieur. Il est important de se souvenir à propos du regard aimant de Dieu sur nous, que nous le voulons et que nous ne le sentons pas nécessairement tout le temps. Nous le voulons, mais nous ne le sentons pas nécessairement tout le temps, car l'amour agit et s'intensifie par l'engagement de la volonté. Au plan divin, l'amour est une force irrésistible et unifiante, un feu transformant, que nous pouvons seulement recevoir grâce au généreux don de soi de Dieu. L'amour n'est pas toujours synonyme de sentiments chaleureux, affectueux, même dans l'amour humain. Donc, vous voyez la part importante de la volonté dans cette recherche de l'union avec Dieu qui peut se faire de façon sèche. Nous ne sentons pas. Alors, premièrement, en route pour vivre un développement vers la complétude divine, par comparaison avec l'amour humain, tandis qu'au fil des années, mari et femme grandissent ensemble dans une union intérieure qui va s'approfondissant, un lien invisible se forme, et même séparés, les deux sont un en esprit d'une façon indescriptible. Cette expérience s'accompagne de la conviction incontestable de sa réalité, ainsi que d'un sentiment profond de complétude, chacun étant le complément de l'autre pour former une unité nouvelle. Un sentiment profond de complétude, résultat de l'union de deux êtres autrefois disparates. L'union spirituelle du masculin et du féminin chez les conjoints nous aide à y voir plus clair dans le développement semblable vers la complétude à l'intérieur de l'âme individuelle. Chaque âme est destinée à atteindre la complétude divine et la communion d'esprit au travers d'une compatibilité toujours croissante entre la volonté humaine et la volonté divine, et en développant un équilibre harmonieux des capacités masculines et féminines à l'intérieur de l'âme elle-même. Pour que l'âme soit transformée, toutes ses capacités doivent être prêtes à refléter fidèlement celles du divin. Donc on est en train de dire qu'il y a une union entre l'âme et Dieu qui fait qu'ils vont réaliser une seule réalité, et ça s'accomplit à travers la prière contemplative. Et l'analogie avec l'union entre l'homme et la femme est une bonne comparaison. C'est fort comme affirmation, évidemment. Mais vous allez voir que nous allons la reprendre plusieurs fois tout au long de ces enseignements. Deuxièmement, purification progressive pour remédier à l'inégalité. Le processus terrestre diffère en ce sens qu'il commence avec le mariage, alors que le cheminement spirituel finit avec le mariage. L'homme et la femme commencent par se marier, puis ensuite cheminent vers l'unité. L'âme et Dieu cheminent vers l'unité, premièrement, et arrivent, deuxièmement, au mariage. En tant qu'être humain, mari et femme commencent dans l'égalité, mais ce n'est pas le cas de Dieu et de l'âme. Dans le processus spirituel, les noces mystiques ne peuvent être réalisées qu'après avoir remédié à cette inégalité foncière, évidemment, entre la créature et le créateur. C'est la purification et l'affermissement progressif qui rendent l'âme capable de s'unir à Dieu dans la ressemblance comme égale ou pendant de Dieu. Vous voyez, les mots employés sont très forts. Égalité, pendant de Dieu. Donc toute une phase de purification et d'affermissement progressive pour devenir capable de ce mariage spirituel. Tout comme dans le mariage terrestre, l'ingrédient principal est une fidélité aimante. Un engagement à vie a été pris qui ne repose pas simplement sur des sentiments plaisants. Il y aura de bons et de mauvais moments, comme dans toute relation, mais quand on est conscient de sa valeur, la valeur de la relation, et que notre amour est assez profond, nous faisons volontiers effort et nous ne fuyons pas devant notre engagement. Troisième élément de réflexion, ce qu'on pourrait appeler l'oraison de recueillement, qui est le commencement de la contemplation infuse. Dans l'ancienne tradition chrétienne, la méditation était généralement considérée comme le prélude à la contemplation. Les novices d'une communauté monastique, dont la plupart ne savaient pas lire, écoutaient la lecture d'un passage de l'Écriture, le mémorisaient et le tournaient et le retournaient dans leur tête, ruminant, digérant et extrayant du passage tous les sens cachés qu'ils pouvaient trouver, tout en accomplissant leur tâche manuelle. Ceci était considéré comme une méditation discursive, où l'esprit était activement engagé dans l'obtention de connaissances sur Dieu au travers de ses propres efforts rationnels. Donc on travaille avec sa tête, on réfléchit, on pense à partir d'un texte de l'Écriture. Nous savons faire cela, nous aussi. C'est la méditation. Plus tard, dans l'oraison de silence, une fois que l'activité physique a cessé, les novices laissaient toutes les intuitions découvertes s'enfoncer profondément dans leur cœur, en leur centre, où Dieu demeure. Ici, l'esprit actif devenait silencieux, les facultés apaisées et l'âme reposait en Dieu, passivement réceptrice et ouverte à tout ce que Dieu désirait donner. Je tiens mon âme en paix et silence comme un enfant contre sa mère, comme il est dit au psaume 131. Ceci était considéré comme une contemplation acquise et pouvait être pratiqué par tous, indépendamment de leur rang dans la vie. Donc vous voyez, méditation, on réfléchit à partir d'un passage de l'Écriture et on en tire des idées, des concepts, des représentations de Dieu. Puis, contemplation silencieuse, acquise parce que c'est toujours moi qui vais, maintenant j'arrête de travailler, je me mets en silence, je me pose et puis j'essaye de me reposer en Dieu et de tirer la fine fleur de ce que j'ai déjà trouvé dans la méditation, ce que Thérèse d'Avila va appeler la contemplation acquise parce que c'est moi qui l'accomplis. Donc elle peut être pratiquée par tous. Sainte Thérèse d'Avila désigne l'habitude de la contemplation acquise sous le nom de prière de recueillement. Voilà, elle emploie plusieurs mots, contemplation acquise ou prière de recueillement. Et si vous regardez la citation en haut de la deuxième page, on l'appelle oraison de recueillement parce que l'âme y recueille toutes ses puissances et rentre au-dedans d'elle-même avec son Dieu. Là, son maître divin réussit, plutôt que par tout autre moyen, à l'instruire et à lui donner l'oraison de quiétude. C'est la même chose tout ça. Hein. On a dit contemplation acquise, prière de recueillement ou encore oraison de quiétude. Comprenez bien, en effet, qu'il ne s'agit pas ici d'une chose surnaturelle. Il ne s'agit pas ici d'une chose surnaturelle. Elle dépend de notre volonté. Et nous pouvons la réaliser avec l'aide de Dieu. Ce n'est pas surnaturel. Contemplation acquise, prière de recueillement, oraison de quiétude. La même chose, c'est nous qui mettons en œuvre. Quatrième petit point de réflexion, maintenant la contemplation infuse, insufflée, un cheminement pour tous. Ce que Thérèse appelle oraison de silence, ce qu'on vient de voir, est le commencement de la prière surnaturelle ou contemplation infuse, laquelle est donnée par Dieu. Cette fois-ci, elle est donnée par Dieu. Et Thérèse pensait que de nombreuses personnes, c'est la fête de Thérèse d'Avila demain, 15, Thérèse pensait que de nombreuses personnes spirituelles, spirituellement préparées, tout en méditant, sont doucement conduites par Dieu jusqu'à l'oraison de quiétude. Cette oraison de quiétude est donc une petite étincelle de son véritable amour que le Seigneur commence à allumer dans l'âme. Il veut lui faire comprendre peu à peu ce que c'est que cet amour si plein de délices. Sainte Thérèse et son frère Carme et ami Saint Jean de la Croix croyaient que de nombreuses âmes pouvaient parvenir non seulement à l'oraison de quiétude, mais aussi à la prière d'union et à la grâce de la transformation divine au cours de leur vie terrestre, pourvu qu'elles endurent volontairement la croix, la porte étroite mentionnée par Jésus. Pour moi, je le répète, dit-elle, une peine très sensible est de voir arriver à cet état tant d'âmes que je connais et si peu monter plus haut comme elles le devraient. Donc, vous voyez, il y a des degrés, la méditation, la contemplation acquise qui se transforme peu à peu en oraison de recueillement, oraison de quiétude, oraison de silence, et où Dieu commence à donner. Nous mettons en œuvre et puis Dieu commence à donner à l'intérieur. Mais beaucoup restent là et ne vont pas plus loin, alors que Thérèse d'Avila pense que la plupart des gens, pendant leur vie terrestre, peuvent aboutir à la prière d'union, qui est le degré supérieur, la grâce de la transformation divine, à condition de passer par la croix, d'accepter la croix que le Seigneur nous présente dans notre vie courante de chaque jour. Elle est différente pour chacun de nous. Cinquième point de réflexion, quand Dieu donne un cours intensif d'illumination divine, pourquoi certains à certains et pas à d'autres. La contemplation qualifiée d'extraordinaire n'est pas la contemplation acquise, ni l'oraison de quiétude infusée ordinairement par Dieu au goutte à goutte sans phénomènes inhabituels. Goutte à goutte, voilà, c'est le titre de notre réflexion d'aujourd'hui. C'est une représentation agricole à laquelle nous sommes habitués, mais qui dit bien ce qui se passe. Alors qu'à certains autres moments, pour certaines personnes, Dieu va employer la trombe. Si Dieu désire intervenir d'une manière plus marquée, il le fera, que l'âme soit consciente ou non de le chercher, ou qu'elle en soit digne ou non, puisque cette intervention ne vient pas en récompense de bonnes actions. Les exemples tirés de la vie de nombreux saints, surtout saint Paul, le confirment. Les infusions massives de grâce qui peuvent ou non s'accompagner de phénomènes mystiques, sont entièrement la prérogative de Dieu en tant qu'elles constituent le don de la vie divine d'une façon plus concentrée ou instantanée. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas dans le goutte à goutte. Attention. Attention. Tous les saints n'ont pas eu d'expérience de vision, de rapt ou d'autres phénomènes surnaturels qui, dans l'esprit de nombreuses personnes, sont souvent associés à la sainteté. Toutefois, le même état de transformation divine fut atteint par tous les saints, indépendamment du fait qu'ils faisaient ou non l'expérience de manifestations inhabituelles. Vous comprenez ? Les manifestations inhabituelles, c'est vraiment périphérique. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'action de Dieu en nous. Donc, il y ait ou pas des manifestations, j'allais dire, c'est égal. C'est Dieu qui agit dans tous les cas. À Dieu, rien d'impossible. Il œuvre en chaque âme selon son dessein. Le développement spirituel de certains saints fut tel qu'il attira l'attention, tandis que d'autres furent complètement cachés aux yeux du monde au cours de leur vie terrestre et connus de Dieu seul. Dans la courte vie de Sainte Thérèse de Lisieux, il n'y eut pas d'expérience spirituelle inhabituelle pour retenir l'attention des autres religieuses du couvent des Carmélites de Lisieux, à tel point que même pour Thérèse d'Avila, au moment de sa mort, ses sœurs s'interrogeaient en disant « Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir ?» Il ne s'est rien passé de particulier dans sa vie apparemment. L'amour divin est une force puissante que Dieu donne ordinairement au goutte à goutte, en nourriture aux âmes tout au long de leur vie. Nourriture parsemée de souffrances et de revers, pour progressivement les entraîner à éprouver toute la charge de sa gloire, la transformation divine. Pour la plupart des gens, ce processus à l'œuvre n'interrompt pas les activités quotidiennes, ni n'interfère avec elles, il les rend optimales. Voilà, si vous avez un paragraphe à encadrer, ce serait celui-là. Ordinairement, c'est du goutte à goutte, Dieu nourrit chaque jour, nous entraîne chaque jour, et on monte petit à petit, il charge en puissance, de sorte à ce que nous atteignions la transformation divine. Lorsque Dieu choisit certains individus pour s'en servir d'instrument dans quelque aspect particulier de son plan divin, il peut leur donner un cours intensif d'illumination divine, une forme accélérée du même développement spirituel de tout un chacun. Au moyen de cette contemplation infuse plus puissante, Dieu les amène à la plénitude de la transformation divine en une durée plus courte. C'est pour ça qu'il y a des gens, quelquefois, qui vous parlent d'expériences absolument ébouriffantes qu'ils ont faites. Et vous vous dites, ah, ben, ça m'est jamais arrivé, où ils ont chauffé. Mais quand ça s'accompagne d'une charité authentique, d'un renoncement réel dans leur vie, etc., c'est juste. Et donc c'est Dieu qui agit par une forme accélérée de la même union transformante. La force de l'amour divin est telle que quand elle se présente autrement que de la façon ordinaire, progressive, le goutte à goutte, la nature humaine n'est pas toujours équipée pour la soutenir, de la même manière qu'une surcharge inattendue de courant pourra endommager nos appareils électriques ou causer des coupures de courant temporaires. Ce qui s'est passé au presbytère 3 fois ce matin, parce que j'avais mis le grille-pain. Donc je suis descendu 3 fois, mais c'est une bonne image. Voilà. On a l'impression que Dieu fait une surtension chez certaines personnes dans ces moments-là. Sixième petit élément de réflexion, mieux comprendre la prière contemplative, analogie entre spiritualité et électricité. Lorsque nous initions l'action, la contemplation acquise, je vais me mettre en méditation, je vais me mettre en silence ensuite, voilà. Nous ouvrons l'interrupteur, créant un chemin complet ou canal pour recevoir Dieu. Tandis que nous adaptons graduellement notre volonté à la volonté de Dieu au travers de notre cheminement existentiel, nous réduisons notre résistance en devenant plus réceptifs, permettant ainsi au courant divin d'être infus de façon toujours croissante. Contemplation infuse. Tout comme en desserrant légèrement un tuyau d'arrosage, on crée un flux d'eau plus puissant, quand bien même on n'a pas augmenté la pression de l'eau. La force puissante de l'amour divin attend de nous inonder, mais elle est divinement contrôlée pour s'adapter à la disponibilité et à la capacité réceptrice de chaque âme. Dieu est toujours soucieux du bien-être de l'âme. Ça, c'est une phrase qui ferait plaisir à tous ceux qui sont les adeptes du bien-être. Dieu est toujours soucieux du bien-être de l'âme. Dieu prend l'initiative, contemplation infuse, accélérée. Lorsque Dieu prend l'initiative, c'est comme si la force divine devenait soudain extraordinairement élevée, si puissante qu'elle créerait un arc de chaque côté de l'interrupteur fermé, faisant circuler le courant à travers l'air. L'air normalement non conducteur serait forcé d'acheminer le courant de cette force irrésistible. Une lampe branchée sur ce circuit brillerait plus intensément qu'à l'ordinaire, mais l'ampoule ne pourrait certainement pas durer aussi longtemps que dans les conditions moyennes. Nous constatons que la contemplation infuse accélérée n'est pas une chose que l'âme devrait rechercher. N'est pas une chose que l'âme devrait rechercher ou qu'elle est capable d'obtenir par ses propres efforts. C'est entièrement l'affaire de Dieu. D'un autre côté, la contemplation acquise ou prière de recueillement et une contemplation infuse insufflée, commençant avec l'horizon de quiétude, sont possibles pour tous ceux qui désirent consacrer le temps d'effort nécessaire à une relation toujours plus profonde avec l'inhabitation divine. Voyez, si vous donnez du temps chaque jour, Dieu agira au goutte à goutte de toute façon. Et ça, c'est un acte de foi qu'il faut poser au point de départ. Et pour cela, il faut comprendre deux petites choses, ce sera le septième point de notre réflexion, les deux caractéristiques de la véritable prière contemplative. Bien que toute prière soit censée être contemplative, en cela que l'esprit et le cœur devraient s'y élever vers Dieu. Ce qui est considéré comme la véritable prière contemplative a deux caractéristiques distinctes. Ce sont d'abord un changement de visée, et deuxièmement, le but ou l'objectif de la prière contemplative. Première caractéristique, changement de visée, s'orienter vers la recherche de Dieu au-dedans de soi. Par opposition au fait de chercher Dieu, un Dieu qui serait extérieur à soi, distant ou éloigné. Le contemplatif insiste et se concentre de façon convergente sur l'inhabitation, l'habitation à l'intérieur de Dieu dans les profondeurs de l'âme. Voilà. Première caractéristique de la prière contemplative, recherche de Dieu au-dedans de soi. On ferme les yeux, on rentre à l'intérieur. Deuxième aspect distinctif de la prière contemplative est son objectif primordial, l'union à Dieu. L'objectif, c'est pas de tirer des lumières de l'Évangile, par exemple. L'objectif, c'est pas de réciter son chapelet. L'objectif, c'est l'union à Dieu par l'intérieur. Encore une fois, Sainte Thérèse d'Avila a des conseils encourageants à offrir aux âmes d'oraison qui se languissent de faire l'expérience ici et maintenant de l'inhabitation divine. Elle les encourage beaucoup à avancer, voilà, pour rechercher cette union à Dieu. Parce que de toute façon, c'est notre destinée éternelle. Enfin, huitième petit point de réflexion, nous rendre disponibles par des petits actes afin que se déploie la puissance de Dieu. Il est significatif pour notre vie spirituelle que Jésus demanda habituellement un petit effort à ses disciples avant d'opérer ses miracles. Par exemple, à Cana, il a demandé aux serviteurs d'aller remplir l'eau des jarres. Donc, il demande un petit effort au point de départ avant de faire le miracle. Dieu attend la coopération, tout comme les parents, pour le bien du développement de l'enfant, ne font pas tout eux-mêmes, mais attendent un effort de l'enfant. Il fut dit à l'aveugle de laver la boue de ses yeux avant de pouvoir voir. Le pain et le poisson durent être apportés à Jésus avant qu'il ne nourrisse la multitude. À Cana, les récipients de terre durent être remplis d'eau que Jésus avait l'intention de transformer en vin. Pourtant, Dieu a l'habitude de créer à partir de rien, à partir du néant. Et il n'avait pas besoin de ces choses pour opérer des miracles. Mais pourtant, Dieu demande de petits actes qui sont possibles à tous. La simplicité de l'acte lui-même fait partie de l'expérience d'humilité. Cela nous fait prendre conscience que ce n'est pas nos actions, insignifiantes qui font des miracles, mais la puissance de Dieu qui est à l'œuvre en nous et dans le monde. Il nous appartient juste d'être disponibles et volontaires. Dans une prière contemplative régulière, nous apprenons à attendre avec confiance et patience dans la présence de Dieu, avec ou sans consolation, dans la sécheresse ou dans le vide et les larmes, convaincu qu'il est proche jusqu'à ce que, d'un regard, il transforme l'eau de nos larmes en vin de son amour. Alors nous aussi, nous pourrons dire avec l'intendant, « Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant ».